Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, c'est l'heure des grandes gueules. On vous attend au 32-16. Vous connaissez la mécanique pour être avec nous en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Joël Dagossiri, coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports, est avec nous. Bonjour.
Salut
Jean-Baptiste.
Alain.
Et Didier
Salut.
Giraud est à tes côtés.
Bonjour.
L'agriculteur en Saône-et-Loire. On a les deux rugbyman là côte à côte.
On
là.
Parlait de ça. Alors on peut dévoiler le secret de notre conversation juste avant le départ de cette émission. On parlait des matchs de rugby, notamment des matchs de rugby qui sont organisés à l'Assemblée nationale. Et tu toujours joué
ouais, c'est le 15 parlementaire, donc c'est l'équipe du Parlement qui fait le tournoi des 6 nations et on joue contre la Chambre des Lords anglaise, le Parlement irlandais, etc. Et là, la semaine dernière, on a joué dans un match boucherie contre l'équipe du Parlement européen. On a gagné, mais chacun y a laissé un peu de soi sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est sympa, ça permet aussi de jouer avec toute l'Assemblée nationale, toute tendance politique confondue. C'est évidemment un moment de, parfois dans le combat, un moment de concorde.
Donc, et puis le rugby, ouais. C'est l'école de la vie.
Et oui, alors là, tu prêches un convaincu, là.
Allez, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va parler du président de la République, d'Emmanuel Macron. On va le faire en deux temps avec vous au 32-16. On va bien sûr évoquer son intervention tout à l'heure à 13h. Vous pourrez suivre sur BFM TV, TF1, France 2. Et puis ensuite, sera le débrief dans Estelle Midi. On va en parler tout à l'heure à partir de 9h20. Qu'attendez-vous du président de la République? Mais le premier sujet de discussion, là, tout de suite avec vous au 32-16, c'est la petite phrase prononcée par le chef de l'État à propos de la foule qui n'a pas, selon lui, de légitimité.
RMC, les grandes gueules.
Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'écoute dans le rire.
Vous pouvez pas passer à côté. La foule, le président de la République estime qu'elle n'a pas de légitimité face aux élus. On vous attend au 32-16 pour commenter cette petite phrase.
Alors, il faut rappeler le contexte. Hier soir, Emmanuel Macron a réuni les parlementaires de sa majorité, la première ministre. D'ailleurs, derrière toi, il y a une photo avec le chef de l'État et Madame Borne qui sourit. C'est assez rare, hein, sinon Madame Borne, on la voit rarement sourire. Et là, c'était donc plutôt détendu, visiblement, à l'Élysée. Et donc, le chef de l'État s'est exprimé devant sa majorité. Et voilà ce qu'il a dit. La foule qui manifeste en ce moment, et notamment tous les soirs dans plusieurs villes, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Et comme le chef de l'État fait du en même temps, il dit, il faut apaiser et écouter la colère des Français. Donc il faut quand même un peu écouter la foule, même si la foule n'est pas légitime. Alors est-ce qu'il a raison, finalement? Ce qui compte, c'est ce sont les élus qui ont été élus par le peuple, plutôt que la foule, qu'on a peut-être plus de mal à définir, et qui aujourd'hui manifeste notamment le soir dans les villes.
D'accord avec ce que dit le président, Jean-Baptiste? Ouais.
D'abord, c'est une phrase qui évidemment qui va mal sortir, et on voit bien que les oppositions s'en sont saisies pour certainement aussi tordre un peu le sens. Je pense qu'il est un peu intello, Emmanuel Macron, donc lui, sa conception de la foule, c'est ce que les élites français. Elle parle de la foule et du peuple, se réfère à Gustave Le Bon. Il avait écrit un bouquin en 19e siècle qui s'appelait La psychologie des foules. Et l'idée, c'était un peu quand même pas d'opposer, mais de distinguer la foule et le peuple. Le peuple, effectivement, il peut s'exprimer par ses représentants ou d'ailleurs par référendum. C'est là où, dans la phrase, il peut être un sujet. Et la foule, ça se veut être un peu cette agrégation d'individus qui est plus portée à l'action qu'à la raison. C'est un peu ça derrière le sous-jacent. Donc évidemment, c'est une phrase qui va mal sortir et qui va être instrumentalisée à son détriment.
Donc il n'a pas dû la prononcer ?
En politique, je me suis moi-même fait caricaturer tant de fois qu'évidemment, quand vous dites des phrases compliquées, vous faites caricaturer. Après, le moment, il est quand même un petit peu tendu. Donc, évidemment, toutes les phrases qui sont dites à l'Élysée sortent et toutes les phrases sont instrumentalisées. Donc, je pense qu'on peut anticiper une instrumentalisation et s'en prévenir.
Si tu prends stricto sensu
et que
tu te réfères à légitimité au sens de l'EGAS, la loi, la foule, c'est pas la loi. La loi, ce sont les élus, Joël Dagossiri.
Il n'a pas dit de mensonge.
Oui, alors j'entends bien l'explication de Jean-Baptiste, mais
je pense que tout le monde n'a pas lu La psychologie des foules, malheureusement. Donc on a.
C'est très contesté d'ailleurs.
Oui, mais je pense que la plupart des gens vont pas pouvoir faire le lien et tirer un peu la pensée très complexe du président. Je crois que dans ces moments-là, il peut s'exprimer un peu redescendre sur terre, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est une réforme qui touche vraiment au quotidien des gens, au travail des gens. Donc là, je pense que c'est pas le moment de faire de l'intellectualité ou de l'intellectualisme poussé. Et si je veux aller plus loin, je dirais que sa légitimité et la légitimité des élus, elle l'attire d'où ? Elle l'attire de la foule, entre guillemets, du peuple, en tout cas de ceux qui se sont déplacés en masse, même s'il y a eu un gros taux d'abstention, mais qui se sont déplacés en masse pour justement leur donner cette légitimité-là. Donc en fait, c'est pas la légitimité du droit divin. Enfin, je veux dire, il faut qu'on redescende. Ce sont des gens, donc la foule, qui se sont déplacés, qui ont fait la queue dans des bureaux de vote et qui ont dit « Toi, je te remets une légitimité sans nous, enfin, il n'est rien ». Il faut quand même comprendre ça. Donc c'est assez compliqué de comprendre cette phrase aujourd'hui, qu'il prononce cette phrase aujourd'hui. Et en plus, c'est pas une phrase de l'apaisement. Enfin, quand tu vois que les choses brûlent dans la rue, les poubelles brûlent, les gens descendent dans la rue, c'est pas le moment de remettre du feu sur le feu. Donc vraiment, cette phrase, même si effectivement, si on la tire dans le sens intellectuel, on peut en comprendre le sens, elle est vraiment malvenue pour moi.
Non, en plus, pour aller dans ce sens, c'est vraiment très court. La foule et les émeutes, puisque les deux mots ont été prononcés, c'est pas ce qu'on a vu dans la rue pendant un mois et demi.
Non.
On avait plutôt un mouvement social bien organisé avec des syndicats, etc. Donc,
il faut distinguer peut-être entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant le soir.
Ouais, c'est là où je voulais en venir. Il faut, à mon avis, distinguer ce qui a été de la revendication plutôt noble, plutôt saine et plutôt...
Encadrée, la revendication syndicale.
Ouais, et puis qui du coup, est complètement légitime, si j'ose dire, avant le vote. Alors 49-3 censure, machin, il manque 9 voix, c'est comme ça, quoi. Et les gens sont toujours en place, la loi est passée, et il faut le distinguer de ce qui se passe ces soirs dans les rues, quoi. Enfin, moi, j'ai fait un petit tour de métro pas trop tôt hier soir, faut voir qui y avait dans le métro, qui courait dans les couloirs de métro et qui sortait dans les bouches de métro.
C'est qui, alors ?
C'est des gamins de 15 ans, quoi. C'est pas du tout... Enfin, pour moi, je distingue la foule et le peuple, quoi. C'est à peine le peuple. C'est la foule qui est dans l'activisme qui à mon avis, a aucune revendication politique derrière le fait d'aller faire brûler des poubelles, quoi. Je fais pas le lien, forcément, entre la revendication politique d'aller faire brûler des poubelles et le 49-3, quoi. Enfin, c'est un contexte général. Oui, mais... Tous les soirs, ça s'embrase. Moi, je suis pas sûr. Alors, bien sûr qu'il y a des activistes syndicaux là-dedans. Mais moi, ce que j'ai vu hier soir, c'est quand même aussi des gamins, quoi.
C'est le problème, c'est qu'il a raison sur le principe que ce qui compte, c'est d'aller voter.
C'est ce qui s'est passé.
Quand tu ne votes pas, finalement, les gens s'expriment à ta place. Hein. C'est difficile après de dire, ah bah oui, mais bon, il faut aller voter à la présidentielle, voter à la législative, et puis voilà. Quand tu as fait passer le 49-3, c'est plus ambigu, parce que le 49-3, c'est un non-vote. Alors, il y a la motion de censure.
Mais
la
motion de censure. Accompagnée d'une motion de censure.
Oui, mais la motion de censure, tu ne prononces pas sur la réforme, tu te prononces sur est-ce que tu, oui ou non, garder le gouvernement. C'est autre chose. La censure du gouvernement, c'est autre chose.
Là, elle était quand même complètement liée.
Ce qui fait que d'ailleurs, il y a des gens qui étaient contre la réforme des retraites et qui n'ont pas voté la censure, notamment à droite, parce qu'ils faisaient la distinction. Donc, il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale et c'est quand même tout le problème de cette séquence. Alors, certains disent que c'est à cause des insoumis parce qu'ils avaient déposé trop d'abonnements, d'autres disent c'est à cause du gouvernement parce que le débat était trop restreint, trop encadré.
Écoute, moi, j'ai écouté
mais moi, il n'y a pas eu de vote. Donc,
j'ai
difficile
écouté
de parler de légitimité.
Dire l'article 7. Il aurait pu être voté si LFI et les insoumis n'avaient pas
voté. Il aurait été rejeté sans doute.
Mais voilà. Du coup, tout tombait.
Priori,
quoi. Oui. Peut-être que
c'est une erreur des insoumis. C'était leur stratégie.
Oui, mais peut-être que le fait que les insoumis aient bloqué le système, ça faisait le jeu de tout le monde, quoi. Peut-être que ça arrangeait bien tout le monde aussi.
Quoi. Quand même sur la légitimité. Enfin, le sujet, c'est comment le peuple s'exprime, puisque c'est ça, en fait.
Oui.
Donc le peuple, il s'exprime évidemment par la voix de ses représentants, ou il peut être consulté directement
par référendum.
La Constitution, c'est les deux. C'est évidemment.
Vrai.
La deuxième option n'était pas disponible parce qu'il aurait perdu ce référendum.
Attends Jean-Baptiste, quand sur les trois dernières élections on est à 45% d'abstention, le peuple il ferme sa gueule maintenant, quoi. Hein, parce que il a eu le moyen de l'ouvrir. Il est resté à la maison où il allait.
On a voté 4 fois l'année dernière.
Donc c'est bon, quoi.
On a voté 4 fois.
Moi tu peux regarder ma carte d'électeur, il y a 4 tampons, quoi. Hein, j'ai pas de problème là-dessus, quoi.
Oui mais on est d'accord. Donc,
ceux qui sont restés à la maison aujourd'hui, c'est trop facile d'aller faire brûler les poubelles, quoi.
Il faut dire notamment aux jeunes qui n'ont pas voté parce que c'est dans cet âge où on vote le moins.
pas sûr que ceux qui brûlaient du plus belle ont tous le droit de vote.
La phrase, elle est quand même malvenue, parce que s'il voulait aller jusqu'à la légitimité par les élus, il aurait pu le faire. Complètement. Il aurait pu aller jusqu'au vote, ne pas court-circuiter le vote et donc respecter ça, justement son état d'esprit. Mais il ne le respecte pas lui-même et il vient nous dire bah non, la foule n'est pas légitime, etc. Mais la légitimité, nous, on voulait, les gens voulaient aller jusqu'au vote. Enfin, je veux dire, aucun syndicat n'a dit non, on ne veut pas voter, on veut que ce soit la foule qui gouverne, on veut que ce soit par sondage ou par pancarte. Non, les gens voulaient que ce soit voté et il n'a pas respecté
s'il
ça.
S'il avait eu du courage, il aurait mis au vote la loi sans le 49.
Après, Joël, on est un peu dans tous les excès parce que j'entends ceux qui étaient dans la rue hier. Il nous parle de dictature. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les mots ont un sens.
De violence,
t'as envie quand même d'envoyer tous ces gens-là en Iran voir ce que c'est une dictature. Parce que, sincèrement, le 49-3, ce n'est pas la dictature. Le 49-3, c'est prévu dans les textes. Ça a été utilisé par la gauche, par la droite. Et quand la gauche l'utilise, je ne me souviens pas qu'on criait à la dictature.
Dictature. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je le vois là, en tout cas dans le contexte, et je ne suis absolument pas pour dire qu'on est en dictature, pas du tout. Je suis encore là pour m'asseoir, pour m'exprimer, et je ne suis pas sûre que je sois arrêtée après être sortie des grandes gueules, donc tout va bien. Mais simplement, moi, je le vois aussi comme un baïonnage, tu vois. C'est que là, on vous a dit « tais-toi, ferme ta gueule », entre guillemets, on fait comme on veut. Et là, c'est compliqué à entendre dans le contexte, dans tout le contexte. Et l'élection, comme elle s'est passée depuis le Covid, cette façon de gouverner très verticale, tout ça...
C'est la 5e République.
Mais oui, mais là, il l'a vraiment tiré jusqu'au bout. Enfin, je veux dire, la 5e République, il y a
deux
trucs dedans.
Je te rappelle qu'au début, on l'appelait Jupiter quand même. Quoi.
Alors, on va passer par l'Ardèche.
C'est pas une révélation.
On va passer par l'Ardèche. Écoutez Fabien qui est avec nous, qui est boulanger. Bonjour Fabien.
Salut les grandes gueules, ça va ?
Bien, en pleine forme, mais mon cher Fabien. Vous êtes où ? Vous êtes dans votre boulangerie, là, en ce moment ?
Non, c'est mon jour de repos, alors je vous regarde, et donc voilà.
Eh bien, mon cher Fabien, alors, on vous écoute à propos de cette phrase du président, la foule n'a pas de légitimité face aux élus, alors.
Eh bien, j'aimerais bien qu'il révise l'histoire, alors. Parce que le 14 juillet 1789, c'est bien une foule qui a changé l'histoire de la France. Parce que vous m'excuserez, à l'époque, quand il y a eu l'histoire du 14 juillet, avant, il y avait eu l'Assemblée nationale avec le tiers-État, le clergé et la noblesse qui représentaient les instituts de la France de l'époque. Et si on aurait eu un Macron à la place du roi, en fait, le Macron, il se prend pour le roi, là, en fait. Vous m'excuserez quand il dit ce genre de phrase. Parce qu'à l'époque, il disait « la France, c'est moi ». Voilà. Et moi, je suis désolé, à un moment donné, je suis d'accord qu'il est le président... Il a été élu, même s'il n'a pas été élu à 100%, parce que, vous m'excuserez, ça a été plus un blocage pour Marine Le Pen. Je l'ai vu de mes propres yeux, que je voyais des gens dire « Ah, il faut bloquer pour Marine Le Pen, il faut élire Macron. Pourquoi ?» Parce qu'il faut bloquer Marine Le Pen, c'est tout. Et il faut arrêter, il faut écouter un peu le peuple. Je suis d'accord qu'il y a des institutions, je suis d'accord qu'il y a, tout le 49-3. Mais à un moment donné, allez poser aux gens qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Allez poser aux gens, parce que le 14 juillet 1789, les gens, ils en avaient marre.
Est-ce que vous êtes capable de dire ce que veulent vraiment les gens concernant la réforme des retraites? Ils ne veulent pas de cette réforme, mais sincèrement, certains vont dire il faut faire une réforme.
Il faut conserver le système actuel.
Il faut aller à 60 ans, c'est ce que dit Mélenchon. Il ne faut rien bouger, il faut rester à 62 ans. Sincèrement, est-ce qu'il y a une vraie alternative?
Écoutez, déjà, moi, j'ai attaqué en CAP boulanger à l'âge de 15 ans. Ça veut dire que j'ai attaqué à 15 ans, pour vous dire. Ensuite, j'ai parlé avec beaucoup de gens. À chaque fois, on avait les mêmes choses. C'est toujours les mêmes qui payent. À la fin, c'est toujours ceux qui bossent. C'est tout le temps ceux qui bossent. Ceux qui ont toujours du travail, qui doivent payer. À la fin, on s'en sort plus. Moi, je vais vous dire, j'ai un père qui a dû travailler toute sa vie sans une reconnaissance. Et à la fin, il a dû limite se battre pour avoir sa retraite à la fin. Pour vous dire, il était boulanger comme moi. Donc, à un moment donné, j'aimerais bien dire plutôt, aidez ceux qui travaillent, Bien sûr qu'il
faut. Enfin, vous êtes en train de dire, Fabien, le peuple, que ce soit dans la rue, dans les sondages, dit non à cette réforme des retraites, donc on doit l'écouter et on doit retirer cette réforme des retraites. Voilà, si je résume votre pensée, c'est celle-là.
Je ne dirais pas la retirer totalement, mais déjà d'une, écoutez les gens, ce qu'ils ont dit, peut-être. Garder la retraite, mais en comptant à côté d'aider ceux qui travaillent. Parce que moi, moi, quand j'entends que... Quand vous voyez qu'un mec qui a des aides, qui gagne 850 euros, et qu'un gars qui travaille minimum 35 heures et qui gagne 1200 euros, il n'y a que 400 euros de différence. Franchement, le travail n'est pas assez rémunéré, moi, là, sur ça.
Alors, Jean-Baptiste, vous écoute.
Non, mais je trouve que c'est intéressant ce que dit Fabien. D'abord, je pense qu'il a raison de dire, et c'est une spécificité française, dans l'Europe et dans le monde, que souvent, les acquis sociaux en France sont construits dans la rue. C'était vrai des manifs. Alors, il a cité la Bastille. Donc, je connais pas bien la prise de la Bastille, j'y étais pas, mais par définition. Mais en tout cas, 36, 34, c'est bien documenté. Les congés payés, mai 68, récemment le CPE, les Gilets jaunes. Alors, je sais pas si on peut qualifier d'acquis social la manif des Gilets jaunes, mais bref, souvent, la démocratie parlementaire et la démocratie sociale, et y compris ces manifestations dans la rue, produisent des changements sociaux. Et ça, c'est une spécificité française. Après, là où je suis un
donc
peu...
Donc parfois, la foule a gagné.
Non mais du coup, attends Jean-Baptiste, si la raison...
oui, c'est ma deuxième...
Si la raison, Fabien... Non mais les 577 guignols au Palais Bourbon, là, on les dégage, parce qu'ils servent à rien, ceux-là.
Je dis que ça s'articule. Non, je dis que ça s'articule. Je dis pas c'est l'un ou l'autre, je dis que ça s'articule. Ça se complète. Bref, c'est pas l'un ou l'autre.
Ou ça s'oppose.
Et d'ailleurs, pour le coup, Macron a plutôt... souvent tenu contre la pression, et il le fait encore. Il tient contre une pression, une mobilisation qui est importante dans l'opinion.
Oui, mais alors, pardon, mais dans ce cas-là, on lui reproche d'avoir cédé aux Gilets jaunes parce qu'il y a de la violence. Là, jusqu'à présent, il n'y avait pas de violence et il n'a rien cédé.
C'est le sujet de cette rhétorique-là. Après, donc c'est là où je suis en désaccord avec Fabien, c'est que, et Fabien l'exprime très bien. En fait, on ne voit pas ni la majorité alternative de gouvernement,
non.
Et c'est le problème du 49-3, ni même la proposition politique, la plateforme politique du gouvernement. Et je pense que dans la rue, on n'aurait pas beaucoup de convergence sur les deux, trois textes qu'il faudrait...
Fabien,
c'est le problème de la 5ème République quand t'as
Fabien,
pas de majorité absolue.
Max, merci d'avoir été avec nous, Fabien. On va écouter Mathieu qui nous appelle de Gironde. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors on était avec Fabien, avec un artisan boulanger, vous êtes artisan boucher, mon cher Mathieu. Est-ce que vous partagez ce qu'a dit Fabien, ou au contraire vous êtes sur la ligne du président de la République, la foule n'a pas de légitimité, dites-nous.
Ah mais non, mais moi je suis complètement d'avis avec Fabien. La foule a la légitimité. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que Emmanuel Macron a été élu par combien de personnes en France? On est 66 millions. Oui. La représentativité, il n'y est pas, si vous voulez parler voix.
Ah ouais, mais ça ne marche pas comme ça.
Mais oui, non, mais si, parce que aujourd'hui, si vous voulez... Oui,
comptez ceux qui vont à la pêche, ça ne marche pas, Mathieu.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un souci... c'est la fin de la 5ème République, parce que les gens n'y croient plus. Même moi, je n'y crois plus à la politique aujourd'hui. J'ai bientôt 40 ans, ça fait 40 ans. Regardez, j'ai toujours connu Fabius, j'ai toujours connu Mélenchon, j'ai tout mis... c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes.
Avec Macron, c'était neuf.
Ça a changé avec Macron.
Oui, d'accord, mais il a été mis par qui? Je veux dire...
il s'est mis tout seul.
Voilà. Oui,
Celui qui l'avait mis entre guillemets Hollande s'est fait doubler.
Voilà, mais oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ça montre que quand même, ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, avec cette réforme et avec tout ce qui se passe, c'est la fin de la 5ème République. Il y a plus de, les gens ne croient plus en nos hommes politiques. Et moi, j'en commence à en faire partie. Parce qu'on nous balance de droite et de gauche. Moi, la réforme des retraites, je suis contre. J'ai commencé à travailler comme Fabien à l'âge de 15 ans. Oui. Et là, on nous annonce qu'on ne va pas prendre notre apprentissage en compte pour la retraite. On ne le prend plus en compte, l'apprentissage pour la retraite. Et moi, je vais travailler jusqu'à 64 ans.
Vous avez voté à la présidentielle ? Pardon, Mathieu.
Oui.
Vous avez voté à la présidentielle ?
J'ai toujours voté.
D'accord.
J'ai toujours voté. Et je voterai toujours. Mais aujourd'hui...
Donc vous y croyez quand même encore un peu ?
Je voterai toujours. Je vote blanc. Mais c'est pas
connu. Vous votez blanc, d'accord.
C'est pas connu. Comment voulez-vous qu'il y ait une légitimité? Le vote blanc n'est pas reconnu. Bah, ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez avoir une vraie légitimité, regardez le vote, les gens qui ont voté blanc, et là vous allez voir qu'il y avait vraiment.
Mathieu, j'ai la petite question bonus à vous poser là. Vous allez regarder le président de la République à 13h ou pas?
Oui, je vais le regarder.
Bon ben voilà, mon cher Mathieu, justement, on va continuer d'en discuter. Et je vous remercie d'avoir été avec les GG, avec les grandes gueules. Est-ce que vous allez, comme Mathieu, regarder le président de la République? Surtout, qu'en attendez-vous? Ça va être la deuxième partie de notre discussion maintenant. Que peut-il dire le chef de l'État? On vous attend au 32-16. On va juste regarder sur les réseaux sociaux ce que vous pensez, la petite phrase d'Emmanuel Macron à propos de la légitimité de la foule. Est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est du bon sens? C'est du mépris
pour 80% d'entre vous, ceux qui ont voté sur les réseaux sociaux.
Allez, là, ce n'est plus les deux tiers, un tiers.
Dans un instant, donc, Emmanuel Macron au JT de 13h, à suivre sur BFM TV, sur TF1, sur France 2. Débrief avec Estelle Midi tout à l'heure, bien sûr. Et mais d'abord, on en parle avec vous au 32-16. Qu'en attendez-vous ? À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est avec vous comme tous les jours au 32-16, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. On va parler de l'intervention du président de la République maintenant. Il est attendu tout à l'heure à partir de 13h, à suivre sur BFM TV, sur TF1, sur France 2, et à analyser, débriefer, commenter au 32-16 tout à l'heure avec la camarade Estelle Denis.
Alors, on nous dit que ça devrait durer entre 15 et 20 minutes l'intervention présidentielle.
Alors, on n'y croit pas du tout.
On sait qu'on a un président bavard. Enfin, ça veut dire qu'il veut faire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a peut-être pas grand-chose à annoncer, parce qu'on sait qu'il n'y aura ni référendum, ni dissolution, ni remaniement, en tout cas pour l'instant, qu'il veut donner un peu rendez-vous dans 3 semaines pour voir s'il ne va pas changer de méthode. Donc il veut sans doute, je ne sais pas ce que vous en pensez, réexpliquer pourquoi la réforme est indispensable et peut-être apaiser les esprits, Jean-Baptiste ?
Ouais, d'abord, je pense que le format moins solennel que le 20h, c'est évidemment pour tenter de faire l'explication et de convaincre sur le fond de la réforme et se projeter sur la suite. Et il l'a dit un petit peu, la suite, puisqu'il a reçu des parlementaires que j'ai croisés dans le couloir.
Et alors, ils disent quoi ?
Et ils disent qu'en gros, il veut se consacrer, faire moins de lois et se consacrer à des objets du quotidien, l'écologie, la santé, l'éducation, etc. Après, je pense qu'il ne pourra pas ne pas répondre aux crises multiples qui agissent dans le pays aujourd'hui. Il a une crise politique, il a quand même une majorité qui est relative. Il devra certainement s'expliquer sur ses décisions de ne pas remanier ou de ne pas dissoudre, même si je pense que pour le coup, ça n'apporterait absolument aucune solution. Il a quand même une crise sociale, et s'il veut continuer de gouverner, réassocier la CFDT, ça peut quand même être une action souhaitable. Et après, je pense que ça pose la question plus fondamentale du régime de la 5e. Et on voit bien qu'il a des ambitions, puisqu'il est en train de consulter les forces vives de la nation sur une réforme des institutions. Bon, je ne sais pas où tout ça ira.
Il avait promis la proportionnelle, il ne l'a pas fait.
Ouais, alors du coup, elle est un peu de fait maintenant, puisqu'il y a un parlement qui ressemble quand même à un parlement à la proportionnelle. Mais je pense qu'il pourrait aussi répondre à toutes ces questions qui sont légitimes. Et puis il y a encore du temps, parce qu'il a encore 4 ans. Et 4 ans en politique, c'est long. Il aura certes une guerre de succession, mais il a encore au moins 3 ans de gouvernance utile. Donc il faut qu'il en fasse quelque chose pour le pays.
T'attends quoi, toi, Joël ?
C'est très clair, je n'attends absolument rien.
Bah voilà, merci Joël.
Je serre les fesses en attendant.
Tu n'attends rien, tu serres les fesses.
Je serre les fesses en attendant la fin de ce quinquennat.
Ah bon ?
Ah quand même, c'est long.
Ah oui,
4 ans, c'est long. Hein.
Oui, c'est long, c'est long, mais j'aimerais qu'il ne touche plus à rien. Je voudrais qu'il ne touche plus à rien.
Ou les fesses musclées. Qu'il se
suracquise.
Non, ça dérape. On laisse tomber.
Non, vraiment, j'ai l'impression qu'il est en train de nous casser le jouet. Donc je veux plus qu'il touche à rien.
C'est sans rapport avec cela.
C'est ça, c'est un sale gosse dans la salle de jeu qui casse tes jouets.
Alors, bien sûr, il pourra toucher au quotidien, nous faire 2-3 trucs par là, mais s'il pouvait ne pas dépenser des millions, ça m'arrangerait aussi. Parce que quand il touche au quotidien, il fait des chèques. Donc, j'ai peur aussi de ce côté-là. Et sur l'intervention
T'attends rien, en fait.
J'attends rien parce qu'en fait, comme il l'a placé à midi, enfin, à 13h, donc je sais déjà qu'en fait, il a envie de se dérober. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me dire?
13h, c'est,
c'est la dérobade. Bah, excuse-moi. Il nous a fait des grands 20h, grands 20h à 30 millions, pour nous dire que c'était la guerre pendant le Covid, etc. Donc, il est très bien capable de s'asseoir et de nous faire des longs fleuves pendant une heure. Et là, tout d'un coup, il nous fait 20 minutes à 13h.
Mais il a fait un 13h avec
Pernod. Entre la poire et le fromage.
Non, bah,
excuse-moi.
Oui, mais alors, c'est le 13h de Pernod, c'était délocalisé dans une école.
Ouais, dans l'Orne.
Là, c'est à l'Élysée. C'est une interview assez classique, en fait. Sauf que c'est à 13h.
Il veut parler au territoire.
C'est fait pour qu'il y ait moins de monde.
Il veut parler aux gens qui déjeunent.
Enfin, je veux dire, non, mais il veut parler au territoire. On parle pas d'une loi sur la décentralisation, des choses comme ça. Là, ce serait bien sûr normal et cohérent. Là, on parle d'une réforme sur la retraite qui touche tout le monde, qui a mis des millions de personnes dans la rue, il est passé par le 49-3. Ça mérite au moins 20h. Je veux dire, et même ça mérite un 20h au cinéma. Je veux dire, ça mérite vraiment tout la fanfare, etc. Donc non, 13h, ça le vaut pas, non.
Didier,
écoute, moi je
regarde le 13h, toi, habituellement.
Quand il y avait Pernod.
Ça peut arriver, ouais.
Après la première journée.
Mais c'est vrai.
Non, mais c'est quand on travaille.
J'ai arrêté le 13h depuis qu'il n'y a plus Pernod, ouais.
Ah ouais.
Le côté misogyne.
Non, le côté territoire.
La Caro, elle continue à faire du territoire, non ?
Pas vraiment pareil, c'est pas la même ligne éditoriale. Mais enfin, pour en revenir à Macron, moi je trouve que après la première question qu'on s'est posée à 9h, est-ce qu'il a été méprisant dans sa petite phrase au peuple ?
Quand tu vois qu'il y a 80% des gens qui pensent qu'il est méprisant vis-à-vis du peuple, à quoi, enfin, ça va sonner creux ce qu'il va nous dire maintenant. Enfin, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête quand il fait fuiter la petite phrase que les foules ne sont pas légitimes, en amalgamant des émeutiers le soir à Paris qui font brûler des poubelles et des gens qui ont manifesté de façon digne depuis des mois contre sa réforme des retraites. Il balance, il laisse fuiter, je sais pas comment ça se passe, mais il laisse fuiter cette petite phrase et après il vient nous expliquer qu'il faut, parce que il va nous expliquer qu'il faut apaiser les choses maintenant avec la réforme et les légitimes.
Mais comment tu apaises?
Moi j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans sa tête et comment il est monté. j'arrive toujours pas à comprendre parce que à la rigueur la séquence de 13 heures mais en même temps elle résout rien la séquence de 13 heures parce que vous l'avez dit, il s'adresse plutôt au territoire, aux gens qui bouffent chez eux le midi. C'est-à-dire plutôt les ruraux.
Plutôt les retraités,
alors que là où ça flambe, ces soirs, c'est plutôt dans les villes et c'est plutôt des jeunes, quoi, qui seront pas devant la télé à 13h. Donc, j'arrive pas à comprendre
ce matin, c'est quoi la logique. En fait, ce matin, les gens se sont réveillés en écoutant notamment RMC, en entendant un président qui dit je ne remanie pas. Je ne dissous pas.
Il n'y aura pas de référendum.
Les foules ne sont pas légitimes.
Les foules ne sont pas légitimes. Donc en fait, on a l'intervention.
Bah oui, on sait déjà.
S'il vient jouer la carte de l'apaisement.
Et il y a le 49-3 qui est passé, tout ça, ça y est,
s'il vient jouer la carte de l'apaisement à 13h, une fois de plus, il se foutra de la gueule des gens.
Mais moi, je pense. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, Jean-Baptiste, que toi, tu as fait de la politique, mais un responsable politique. S'il prend la parole, il faut qu'il ait des choses à dire, des choses à annoncer. Et qui plus est, un président de la République, un président qui prend la parole pour ne rien dire, ou des phrases creuses, ou redire ce qu'il a dit déjà sur la réforme des retraites, etc., qu'elle était essentielle, à mon avis, je pense qu'il a tort de prendre la parole. Il aurait dû attendre 3 semaines, ou quand il avait vraiment des choses à annoncer, une nouvelle loi, une nouvelle méthode, peut-être un nouveau Premier ministre, je ne sais pas. Mais j'ai peur que ça fasse flop.
Ou alors trouver effectivement des choses un peu concrètes à dire. S'il dit « je veux rentrer dans un contrat de gouvernement avec une partie de la droite », c'est concret, tu vois, c'est annoncer une coalition, une plateforme de... Je ne sais pas si c'est possible.
Celle de Pradi ou celle de Ciotti?
C'est bien le sujet. C'est quelle droite? S'il dit « je vais consulter les Français sur le référendum de la fin de vie », c'est concret. Enfin, tu vois, c'est... Et peut-être qu'il va tenter de dire des choses comme ça.
Et après, on va l'accuser de faire diversion.
Il va nous faire détourner le regard, alors.
Ouais. Ah, et lui, c'est sûr qu'il va chercher à expliquer ce qu'il a fait et à engager la suite.
Ça, oui, c'est, et dire c'est, qu'on va pas... Ouais. Exactement.
Oui, mais...
Non.
Et parce que d'ores et déjà, on fait fuiter le fait que dans 3 semaines, il reprend la parole de manière un peu plus solennelle. Non, mais franchement. Donc, si tu veux, entre hier soir et ce matin, on sait qu'il va reparler dans 3 semaines de manière plus solennelle pour les Français. Ce sera peut-être un 20h. Et on sait qu'il n'y aura pas de dissolution, pas de remaniement, c'est pas tout. De référendum. Ouais, donc,
c'est tout.
Mais honnêtement, rendez-vous dans 3 semaines plutôt.
Il a laissé fuiter.
Contrairement à ce que disaient certains, le poussait, il faut qu'il parle. Comme il n'a rien à dire, il fallait pas qu'il parle. Demain, il y a une nouvelle journée d'action. Ce soir, tu crois que les gens vont pas descendre dans la rue? Ils vont continuer à descendre dans la rue. Demain, il y a une nouvelle journée d'action. La grève des poubelles, c'est jusqu'à lundi. Donc, on est en plein marasme. Il fallait attendre.
Après, les commentateurs et l'opposition, ils poussent des solutions qui n'en sont pas. La dissolution, il n'a aucun intérêt à la faire. Alors, il la fera évidemment pas. La majorité sera encore plus minoritaire, en quelque sorte. En tout cas, plus relative. Le remaniement, ni des membres de l'opposition, ni des Français trouvent ça suffisant par rapport à ceux qui contestent ou qui pensent qu'il y a vraiment une crise sociale et politique profonde dans le pays. Et le référendum ou le retrait de la loi, pour le coup, il n'ira pas puisqu'il considère que cette loi, c'est son sésame pour les 4 ans qui viennent et sa capacité de réformer. C'est totémique pour lui. Donc ces solutions-là qui sont avancées par d'autres, il va évidemment les écarter et il va essayer de positionner.
Peut-être qu'il peut dire.
Partage ce que tu dis sur.
Je sais pas ce qu'il vous pensez, mais est-ce qu'il va pas dire non plus on a vu quand même que cette réforme des retraites, beaucoup de gens parlaient aussi de leurs conditions de travail. Est-ce qu'il peut pas agir là-dessus en disant j'ai compris effectivement que cette réforme des retraites soulevait aussi plein de questions sur la façon dont on travaille aujourd'hui en 2023. Tout à l'heure on parlera de la semaine des 4 jours. On voit bien que le Covid ça a quand même beaucoup changé les choses. Il y a le télétravail, il y a le sens du travail. Peut-être qu'il peut aller dans cette direction-là.
C'est la raison pour laquelle ils ont écarté dans l'agenda la loi sur l'asile et l'immigration. Oui, à mon avis, ils vont mettre le travail au cœur du sujet, essayer de rattraper ou de réintégrer la CFDT à minima dans ces discussions-là.
Oui, trouver un berger, ça peut intéresser ça.
Alors, on va aller en Charente-Maritime écouter Nicolas qui est commercial. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG.
Commercial dans le médical, mon cher Nicolas. Oui. Est-ce que vous allez écouter le président de la République? Qu'en attendez-vous? Dites-nous tout.
parce que j'en entends plein de choses qui nous expliquent comment, que le peuple est idiot, que les gueux que nous sommes à 60 ans quand ils sont cassés, donc à traverser la rue pour retrouver du boulot. Voilà ce que j'attends de lui. En fait, j'en attends rien du tout, comme d'habitude. Il va nous expliquer que lui, il a raison, que nous, on n'a rien compris, qu'il faut traverser la rue pour trouver du boulot. Mais quand vous avez des mecs qui sont pétés par le boulot à 60 balais, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent retrouver du boulot? Mais en fait, ce mec est totalement déconnecté. Ce que j'apprécierais, c'est qu'ils disent « Ouais, ok, bon, j'ai compris, il y a une colère. Et maintenant, on arrête tout, on met en pause, on revoit la copie et les gens rentrent chez eux, se calment. Mais il n'est pas dans cette démarche-là. Il a l'impression, de savoir et que le peuple, lui, est idiot et ne sait rien. Voilà. Le peuple ne sait pas. La foule n'a pas de légitimité, il faut s'en remettre aux élus. Mais les élus, à l'Assemblée, il avait qu'à les consulter, il ne les a pas consultés.
Mais Nicolas, vous avez déjà entendu un responsable politique reconnaître, faire un mea culpa, reconnaître ses erreurs parce qu'il aurait des choses à... Il s'est planté, enfin, c'est un peu un naufrage politique quand même, la façon dont il a mené les choses avec cette réforme des retraites, parce qu'il fait une réforme des retraites pour la droite. La droite, finalement, un tiers n'en veut pas. Donc, il est obligé de passer par 43 après avoir expliqué qu'il ne passerait pas par 43. Donc, il y a plein de choses. Mais le problème, c'est ce que vous avez déjà entendu un président dire « je me suis trompé ».
Mais ça serait bien. Il en sortirait grandi. De dire, bon, okay, je me suis trompé, on s'est trompé, faut réformer, ok. Mais je pense que la majorité du peuple français est d'accord avec ça. Il faut réformer, on s'est trompé sur la méthode, on s'est trompé sur la manière, on va revoir la copie, on va vous présenter autre chose, et c'est pas grave. Faire des erreurs, ça fait partie de la vie. Là, visiblement, il en fait une, personne n'est d'accord avec cette réforme, et à un moment donné, faut dire stop.
D'accord. Ouais.
Il y a qu'à voir dans la rue, c'est bordel partout. Il y a 75% du peuple qui est contre lui. Et il va parler le midi dans les journaux de 13h où la population qui regarde ces journaux, la moyenne d'âge des
majoritairement, la France qui travaille ne regarde pas le 13h.
D'accord. Voilà, hier, c'est le midi, il disait que c'était 64 ans, je crois, la moyenne d'âge des gens qui regardent le 13h. Ouais.
Bah, parce que c'est les inactifs souvent.
C'est ceux qui viennent d'être en retraite alors.
Nicolas, vous n'en attendez rien, on a bien compris. Nicolas, puisque vous êtes un fidèle des GG et d'RMC et d'Estelle, permettez que pour vous remercier, je vous offre deux places de cinéma pour aller voir le nouveau film d'action dont tout le monde parle, John Wick 4 avec Keanu Reeves. Voilà, c'est pour vous Nicolas, je vous offre des places de cinéma.
Merci.
Mais, je vous en prie.
C'est le meilleur de la série.
2h50.
D'accord. Hein. Ah, ça, c'est quand t'as la baston.
Vous connaissez. Alors, je pense que même si vous connaissez pas la saga, vous pouvez y aller avoir pris connaissance des trois volumes précédents.
Ah, ça me rassure, ça.
Je pense que vous serez pas, non, tu seras pas perdu. John Wick, il est énervé depuis qu'on a tué son chien dans le premier volume.
Et il s'est énervé pour la réforme des retraites.
Et sa femme aussi, quand même.
Je me souviens plus. Moi, je me souviens du chien.
Ouais, tu devrais revoir le premier.
C'est sélectif, Alain. C'est inquiétant.
Faut que je reprenne la saga. Bon, je vous envoie les places, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous. Donc, l'intervention du président de la République tout à l'heure. Si vous voulez, comme Nicolas, peut-être reprendre la parole, disserter sur ce qu'aura dit le président de la République, ce sera avec Estelle. Tout à l'heure, Estelle commence à midi, vous le savez. Et le président parle à 13h. Et dès que c'est fini, vous faites chauffer la colle et le 32-16 avec Estelle Denis. Et sur rmc.fr, toute la journée, vous pouvez commenter aussi sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on s'en fout pas avec notre productrice Anaïs Sainz. Et puis à 10h tout à l'heure, on reviendra sur la manière dont les manifestations sont réprimées en ce moment. Est-ce qu'on a un problème avec le maintien de l'ordre, avec les forces de l'ordre, notamment les braves, tu sais, les brigades de répression des actions violentes qui sont dans le collimateur. La France Insoumise veut leur interdiction. Venez en discuter tout à l'heure au 32-16 avec nous. Allez, dans un instant, on s'en fout pas.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Qui est là aujourd'hui dans les GG? L'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. L'agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud. Nous sommes avec Joël Dagosséry, la coach de vie, et avec notre productrice Anaïs Sainz. Ça veut dire que c'est l'heure du On s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec son pull 70s.
Oui.
Et ça, le love.
Il est magnifique.
Avec l'arc-en-ciel.
Encore une fille qui drogue.
Non. Les GG, la grève dans les raffineries et ses conséquences à la pompe. Près de 54% des stations-service des Bouches-du-Rhône manquaient d'au moins un carburant hier et 41% sont carrément à sec. Et ce, malgré les réquisitions au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer et des difficultés d'approvisionnement qui commencent aussi à apparaître dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier ?
Moi, je m'en fous.
Quoi ?
Moi, j'en ai, alors je m'en fous. Quoi.
Ah bah, bravo,
j'en ai, je m'en fous.
Okay. Égoïste. Jean-Baptiste.
Complètement.
On s'en fout pas, du coup.
Joël,
on s'en fout.
Jean-Baptiste.
Je te laisse non, on s'en fout pas, parce que dans la stratégie pour durer, dans la stratégie pour durer, il y a effectivement ce qui enquiquine un peu la vie des Français. Et on voit bien que, évidemment, il y a les stocks un petit peu partout là en France. Les stocks sont plutôt allés très haut niveau, mais quand on arrête la production, à un moment, les stocks se vident. Et là, on le voit bien dans les Bouches-du-Rhône, en 2-3 semaines, ils commencent à avoir des vrais problèmes. Il y avait une pompe sur 4 il y a 3 jours, il y a une pompe sur 2 aujourd'hui, et ça peut évidemment contribuer à mettre de la pression politique dans la séquence. Donc
au niveau national, 115 grévistes dans les raffineries sur 2646 salariés.
Parce que les opérateurs
Didier, d'un coup, tu t'en fous pas, toi.
Non, mais c'était la blague, je m'en fous pas.
Je voulais dire
que chez moi, il n'y avait
que
pas de pénurie.
115 grévistes. Hein.
Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'avec 115 sur 2600, tu bloques un système, quoi. Et quand je dis aujourd'hui, ceux qui ont un pouvoir sur la grève, c'est ceux qui ont un pouvoir de nuisance. On est complètement là-dedans, quoi. Il y a quand même plein de professions qui pourraient légitimement manifester ou être contre une réforme. Ils peuvent pas l'être parce qu'ils ont zéro pouvoir de nuisance. Ces gens-là ont plein de pouvoir de nuisance.
Les GG, la grève des éboueurs reconduite à Paris jusqu'à lundi. Presque 3 semaines que les déchets s'amoncellent sur les trottoirs. 9300 tonnes au total. Et Anne Hidalgo, qui refuse de réquisitionner les grévistes, eh bien, a activé, en revanche, la cellule de crise de Paris hier. Cellule qui mobilisera tous les jours adjoints, maire d'arrondissement, directeur concerné. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Baptiste ?
On s'en fout pas.
Didier ?
C'est un peu tard.
Non, on s'en fout pas.
Joël ?
On s'en fout pas.
Joël, vas-y.
Non, je comprends pas. Moi, ils sont passés ce matin. Ils ont ramassé les poubelles. Donc, je vois qu'ils passent un peu tous les jours. Et tous les jours, ils en prennent un petit peu. Donc, je sais pas trop ce qui se passe au niveau de la grève. J'ai lu qu'il y avait que 6% de grévistes. Oui. Ça, par contre, c'est assez grave, quand même.
Il y a un éboueur sur 16 seulement en grève.
6% de grévistes et avec tout le bordel que ça a foutu. Enfin, j'aimerais savoir, en fait, comment ça s'organise pour que 6% de grévistes mettent autant de bordel. Donc,
ça pose un problème de légitimité
complètement. Mais Anne Hidalgo, je ne comprends pas sa stratégie en fait. J'ai l'impression qu'en fait elle fait devant elle dit je vous soutiens et derrière elle passe en cachette la nuit pour ramasser quelques poubelles.
C'est exactement ça.
Il passe un peu tous les jours à ramasser les poubelles. Donc elle est vraiment, je la trouve assez hypocrite. Oui, tout à fait.
Vous avez vu la photo de Carla Bruni sur Instagram, elle pose sur un monticule de détritus. Je ne sais pas si on a la photo sur RMC Story. On s'en fout ou pas, ça, tiens, les GG.
Moi,
Joël.
Je m'en fous, mais je m'en fous pas quand même, parce qu'elle elle a été première dame. Je comprends pas très bien sa communication.
Elle non plus.
C'est le printemps.
C'est une vanne, c'est du second degré.
Ouais,
c'est les poubelles
fleuries. Par contre, moi, je comprends pas la logique parisienne. Il y a des gens qui, parce que tu vas ramasser des poubelles en réquisitionnant des gens qui sont grévistes pour les emmener à un incinérateur, on n'a qu'à laisser les gamins les brûler les soirs, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça sert à quoi?
On fait les deux.
Ça sert à quoi de les empêcher de brûler? Non, mais d'éteindre les feux? Non, mais
on voit surtout que la réquisition, ça marche pas très bien parce que ça baisse pas beaucoup. On était à 10 000 tonnes et on est à 9 300. Donc ça veut dire que malgré la réquisition, ils arrivent pas à réquisitionner. Et puis ceux qui sont réquisitionnés, visiblement, selon certains, font preuve de mauvaise volonté. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de temps à prendre les poubelles. Voilà. Donc en fait, il y a une espèce
grève
de
grève du zèle.
Ouais. Ça, je confirme.
La petite archive qui tombe mal pour la NUPES et pour Olivier Faure en pleine contestation. On est en 2016, les GG, il est député PS, Olivier Faure. On est en plein débat sur la loi travail du gouvernement Valls. Loi promulguée par un 49-3. Et Olivier Faure soutenait son gouvernement sur cette loi qui avait suscité, elle aussi, la colère de la rue. On écoute.
Il y a une majorité relative aujourd'hui à l'Assemblée. Et donc, face à un front qui réunit des gens qui pensent des choses très différentes, il faut bien avancer, autrement on arrête tout. Et je pense que le vrai discrédit, c'est quand on ne fait plus rien, quand on donne le sentiment aux Français qu'on ne peut pas s'attaquer aux problèmes qui sont devant eux. Et donc, quand il faut agir, il faut parfois prendre des moyens qui ne sont pas forcément ceux que nous aurions utilisés en temps normal.
Voilà, quand il faut agir, dommage, il faut les moyens nécessaires.
Les
GG, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier?
Ah non, on s'en fout pas.
Jean-Baptiste, Joël, pas. Didier.
Bah, ça met en évidence que de tout temps, tout gouvernement a utilisé ce 49-3.
Avec les mêmes arguments.
Avec les mêmes arguments, et c'est une arme légitime, contrairement à ce qu'on entend à longueur de journée.
Attends, pardon, mais lui, c'est le socialiste qui est dans la rue et qui dénonce le 49-3.
C'est ça que je te dis.
Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se regarder dans la glace.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui crient à la dictature parce qu'il y a eu un 49-3 suivi d'une motion de censure à laquelle il y a manqué des voix, bah non, c'est pas une dictature, la preuve, quoi. Hein.
Jean-Baptiste.
Bah, c'est fondamentalement le problème des gens qui passent trop de temps en politique, qui finissent par dire tout et son contraire.
Et l'inverse de ce qu'ils ont fait.
Bah, Olivier Faure n'a fait que de la politique.
Olivier Faure à l'époque, hein.
Ouais, il ressemblait à Alain Marchal.
C'est un peu
le même jour, ouais, 18, on est le 18 août.
C'est pas un peu le souci de.
Ah, il y a un truc.
Là. Là. D'un coup, j'ai enlevé les lunettes, je dis « Oh, c'est Olivier Faure !»
On les a jamais vus dans la même pièce en même temps.
T'es d'accord, regarde. Et toi aussi, quand j'ai enlevé les lunettes, t'as failli m'appeler Olivier d'ailleurs.
Je vais t'appeler 49-3.
Mais il fait bien aussi Francis Holm. Fais-nous Francis Holm.
Allez,
voilà. Bon, alors pour les, oui, bah écoutez,
je pense que dommage, le plus grand cabaret.
Bienvenue au Muppet Show.
Le plus grand cabaret du monde n'existe plus. C'est dommage, je pense que Patrick m'aurait pris pour une imitation de Francis Holm. Tu viens de me ridiculiser devant la France entière.
40 ans de journalisme, ruiné d'humilité, de professionnalisme.
Ça s'arrête aujourd'hui.
Par contre, c'est un truc qui m'embête, c'est que dans le on s'en fout pas, on parle pas de la SNCF, quoi.
Et
on,
alors parlons-en.
Parce qu'on s'en fout pas du tout, ces salopards qui t'annulent le train la veille au soir sans rien te prévenir, si ce n'est un SMS, plus de train, quoi. Démerde-toi.
Explique Didier, effectivement.
Et puis
tu
je vais t'expliquer, parce que j'ai été
très énervé, là.
À la petite gare de Montceau-les-Mines, et puis à la petite gare de Montceau-les-Mines, il y a encore un guichet avec une dame qui te délivre un billet et qui te dit oui, le train va partir, non, celui-là ne partira pas, tu vois, parce que les services en ligne, le 36-35 qui tourne en boucle, j'en peux plus de ça.
L'application.
Et elle m'a expliqué ce qui se passe concrètement. C'est quand il y a des grévistes à la SNCF, il y a réquisition de cadres pour faire tourner, ils réquisitionnent des cadres pour faire tourner le train. Sauf que le train, au lieu de partir à 6h, eh ben le train il part à 9h, quoi. Le même, hein. Mais il part à 9h, parce que les cadres, eux, ils vont pas se lever à 5h pour faire démarrer le train à 6h, quoi. Hein. Et le train, il part à 9h, il arrive à Paris à 10h30, quoi.
Il part à 9h.
Et ça, c'est le quotidien.
C'est le même.
C'est un truc de fou, quoi.
Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave.
Très vite.
Non, mais parce qu'il y a moins de cas, donc du coup, ils font un plan de transport dégradé, donc il n'y a plus le train de 6h. C'est un autre train. Et effectivement,
ils en rajoutent un. Ils en rajoutent un,
le cadre.
Ouais, mais est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas se lever tôt?
Non, il y a plein de cadres qui bossent à 4h du mat à la RATP, mais c'est pas grave.
Non, mais dans un instant, je t'envoie un texto, c'est insupportable.
Avec les grandes gueules, est-ce qu'on a un problème avec le maintien de l'ordre lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des groupes qui sont violents, qui prennent la rue? Est-ce qu'on a un problème? 32-16 pour venir en discuter avec les GG.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.